Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te demandons la grâce de rentrer dans ces jours saints. Te rendons grâce pour le don que tu nous fais de ces jours saints, du jeudi saint, du vendredi saint, du samedi saint, et du dimanche de Pâques. Te demandons la grâce de nous renouveler dans nos vocations de baptiser, de confirmer, de marier, de consacrer et de prêtre. Te demandons de contempler ton Fils, Père, de le contempler qui donne sa vie pour nous, d'avoir de la compassion pour lui, d'accueillir de manière nouvelle son salut, les grâces qu'il veut nous donner, de nous unir à lui, de nous offrir à lui, d'être non pas passif mais actif dans ces jours saints, par notre prière, nos offrandes et notre silence, et notre charité pour lui et pour nos frères et sœurs. Te confions particulièrement ceux qui recevront les sacrements de la rédemption, du baptême, de la confirmation et de la communion. Te confions aussi particulièrement toute l'Église qui est en pèlerinage terrestre. Te confions aussi, Seigneur, toute l'Église souffrante qui est au purgatoire. Et nous nous unissons à la prière de l'Église glorieuse qui est près de toi et qui te contemple. En ce jeudi saint, Seigneur, fais-nous rentrer pleinement dans ton mystère. Et nous demandons la grâce, Seigneur, par notre prière, d'aider les futures vocations sacerdotales qui seront unies de manière particulière au mystère du Christ grand prêtre. Nous te demandons par Marie, ta mère, la mère du Christ grand prêtre, la collaboratrice de manière particulière au mystère de la rédemption. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce Triduum pascal, et c'est un choix personnel, va avoir la couleur de la rédemption et la couleur du Christ grand prêtre. Je pense personnellement que l'Église vit un renouveau sacerdotal après le renouveau de l'apostolat des laïcs issu de Vatican II, après les grâces reçues en particulier par le renouveau charismatique de la docilité et l'effusion de l'Esprit Saint. L'Église est en train de redécouvrir ce qu'est le prêtre. Il y a eu des figures récentes, des grandes figures de prêtres, mais il semblerait, en tout cas pour l'Église de France, je m'avance mais je le crois, qu'il y a un renouveau sacerdotal qui est en train de poindre, qui est entre autres un des fruits de Saint Jean-Paul II. Alors vous allez me dire, mais ça concerne les prêtres. Alors on est jeudi saint, ça concerne les prêtres de manière particulière. Mais comme dirait le curé d'Ars, le sacerdoce, qui semble ce sacrement ne concerner personne, concerne tout le monde. Mais plus encore derrière le sacerdoce ministériel, c'est la contemplation du Christ grand prêtre tel qu'il nous l'est donné dans l'Épître aux Hébreux qui est bon de contempler. Parce que, je le dis tout de suite et c'est une affirmation forte, la religion catholique est la religion du sacerdoce du Christ. Parce que la religion catholique, c'est la médiation, c'est le culte de la médiation du Christ. Tout nous vient par le Christ, tout passe par le Christ pour aller au Père, le Christ grand prêtre. Donc il est très important de méditer ce qu'est le Christ grand prêtre dans l'Épître aux Hébreux. Et donc ce Triduum, en fait, va être pour nous l'occasion de rentrer profondément dans l'action du Christ grand prêtre, qui est l'action de la rédemption. Le Christ grand prêtre va nous saisir et nous faire participer à son activité de rédempteur. À travers les jours saints, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint et dimanche de Pâques, le Christ grand prêtre va montrer ce qu'il fait et va se rendre présent. C'est le cœur de notre foi pour nous conduire au Père, pour nous faire rentrer d'une manière nouvelle et mystérieuse dans la Trinité. et chacune de nos vocations va y être associée, parce que depuis le baptême, nous sommes prêtres, et de manière particulière, ceux qui sont appelés et ceux qui ont été appelés à être configurés au Christ grand prêtre, qui sont les ministres, ceux qui sont prêtres, qui exercent le sacerdoce ministériel. Donc ce tridôme pascal, je nous invite de contempler donc le Christ grand prêtre et je nous invite à relire l'Épître aux Hébreux pendant ces 3 jours. Si vous voulez, si ça ne fait pas surcharge avec les textes de la liturgie, je vous invite à méditer l'Épître aux Hébreux. Il faut avoir en tête le triptyque très important qui est chrétien, qui est création, rédemption, sanctification. La création est initiale, elle est l'œuvre de la Trinité. La rédemption est venue en second, même si de toute éternité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint ont un plan de rédemption parce qu'ils connaissent tout par avance. Mais c'est un deuxième plan, ce n'est pas le plan initial tel que le Créateur le voulait. Et c'est l'œuvre de la Trinité, la rédemption. Et de fait, dans cette rédemption, il y a le plan initial aussi qui va s'exercer, mais sous une modalité nouvelle, qui a pour but de faire entrer l'homme dans la vie bienheureuse de la Trinité. Et c'est la sanctification, comme disent les pères de l'Église, la divinisation. Donc il y a bien la création, la rédemption, la divinisation, même si l'Église approprie chacune de ces étapes, qui sont l'étape de la Trinité, à une personne divine. De fait, on attribue plus la création au Père, même si c'est l'œuvre de la Trinité. On attribue plus la rédemption au Rédempteur, même si c'est l'œuvre de la Trinité, au Fils. Et on attribue plus la sanctification, même si c'est l'œuvre de la Trinité, à l'Esprit Saint. Nous allons contempler la rédemption, qui est l'œuvre de la Trinité, mais dans un angle particulier, qui est de fait le Fils Rédempteur, le Christ Grand Prêtre, qui va exercer avec le Père dans l'Esprit l'œuvre de la rédemption et nous y sommes associés. Et il faut être très clair, nous sommes en régime de rédemption. Nous sommes bien créés, mais nous ne sommes plus dans le régime simplement de la création, puisqu'elle a été bouleversée dans tout son cosmos, y compris dans la chair de l'homme, dans son intellect, dans ses passions, dans sa vie spirituelle, par le péché. Donc il n'y a plus de création initiale, il y a une création qui est faussée, désorientée, blessée, perdue, qui peut aller jusqu'à la mort éternelle. C'est la réalité. Et donc nous sommes dans l'œuvre de la rédemption depuis le commencement de l'humanité, hélas, puisque l'humanité dès le départ a péché. Et pourtant le Seigneur a gardé son plan initial. Il veut que sa créature, il veut que l'homme et la femme entrent dans la Trinité. C'est le premier article du catéchisme de l'Église catholique. Dieu qui nous a créés librement, ça veut dire sans nécessité, ce n'était pas nécessaire pour lui. Il s'aime d'un amour infini, il se suffit à lui-même. Ce n'est pas un narcissique, mais il se suffisait. Mais par un surcroît d'amour, le Seigneur a engendré la création. Et dans cette création, une des fines pointes, c'est les êtres intellectuels, les anges et les hommes, les êtres spirituels. Et il les a associés librement à répondre à cet amour, pour les faire participer à sa vie bienheureuse, confère l'article 1 du catéchisme de l'Église catholique. Or, saint Thomas d'Aquin nous dit « L'homme aurait pu rentrer dans la Trinité par le Verbe, au départ. Mais parce que l'homme a péché, de toute éternité s'est préparé un second plan qui est le plan de la rédemption, et ce n'est plus par le Verbe que l'homme est adopté par le Fils éternel, ce sera par le Verbe incarné. Il n'y a pas d'incarnation, nous dit saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Église et docteur des docteurs, on pourrait dire docteur commun. Il n'y a pas d'incarnation s'il n'y a pas de rédemption. L'incarnation du Fils éternel est ordonnée à la rédemption. C'est le plan du salut. C'est le plan de salut. Nous aurions pu être sauvés autrement. Nous n'aurions d'abord pas eu besoin d'être sauvés. Nous serions rentrés par le Fils éternel, le Verbe, dans la Trinité. Depuis la coupure du péché, la création a été perdue et le Créateur l'a visité en son Fils éternel pour la racheter et il s'est fait homme. Il s'est fait homme. Et dès l'incarnation, le Fils éternel exerce son sacerdoce éternel, qui est l'activité de culte au Père, l'activité d'offrande de la création au Père, l'activité de rachat de la création au Père. Et dès son incarnation, le Christ est le Rédempteur. Puisque nous le dit l'Épître aux Éphésiens, l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. C'est l'incarnation. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant, c'est l'incarnation. Jusqu'à la mort, c'est l'incarnation qui va jusqu'à la passion et la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il lui a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est le triomphe de la résurrection, de son ascension et du siège à la droite du Père, qui est le Fils éternel, le Christ grand prêtre, qui intercède sans cesse pour nous. Comme le dira l'Épître aux Hébreux, en Hébreux 7, 25, Jésus vit toujours et prie pour nous. Donc on voit que l'activité du Christ grand prêtre commence dès son incarnation et est là pour racheter la création, et le point culminant de la rédemption et la mort sur la croix. Et là, le Christ vit pleinement son mystère de rédempteur. Et nous allons y être associés pendant ces jours saints, chacun notre matière, en tant que créature, en tant que fils, en tant que fille, en tant que membre de l'Église et participant à la rédemption du cosmos et de tous les êtres spirituels. Nous y participons. Donc c'est grand, ces jours saints. On rentre dans l'activité de la rédemption et ces jours saints vont aujourd'hui, par le jeudi saint, être intégral. Aujourd'hui, c'est un jour intégral qui va se déployer dans le vendredi, le samedi saint et dimanche de Pâques. Dans le jeudi saint, vous avez déjà sacramentellement toute la rédemption, toute l'activité du Christ grand prêtre. C'est pour ça que l'Église dira que l'Eucharistie est le trésor de notre foi, mais nous allons, le sacramentel va être succédé par l'existentiel. Ce que nous recevons sacramentellement déjà nous unit totalement, mais va se déployer de manière sanglante dans le vendredi, dans le samedi saint, et va se déployer dans nos vies par la suite du Christ à travers la passion, l'agonie, le chemin de croix, la mort sur la croix, la descente, la mise au tombeau, la descente aux enfers. Et nous y participons, se déploie ce qui est déjà reçu le jeudi saint, qui est l'activité de la rédemption, l'activité du Christ grand prêtre. Je le dis aussi, le Christ grand prêtre, donc la religion catholique est la religion du sacerdoce du Christ, fondamentalement. Nous rendons un culte au Père par l'exercice du Christ. Toutes nos prières, c'est par Jésus le Christ notre Seigneur. On pourrait dire par Jésus le Christ grand prêtre notre Seigneur, qui intercède pour le Père, qui sauve les hommes, qui est l'offrande. Très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que explicitement ou implicitement, il n'y a que le Christ qui est médiateur. Je le dis carrément, un agnostique, un hindouiste, un bouddhiste, un musulman va être sauvé par le Christ grand prêtre, implicitement ou explicitement. Il n'y a pas d'autre médiateur que le Christ grand prêtre. Ce qui nous est donné par grâce et non par mérite, c'est de connaître qui est celui qui est la porte, comme le dit Jean 10, que celui qui ouvre le ciel, qui donne le salut, c'est le Christ grand prêtre. Et donc nous rentrons dans cette activité pour nous-mêmes, mais pour tous les hommes, pour ceux qui cherchent à tâtons le chemin de vie, ceux qui cherchent pas encore dans la pleine lumière, mais dans l'obscurité, selon leur conscience et ce qu'il y a de bon dans leur culte, et bien en évitant ce qui est faussé, pour aller de manière implicite vers le Christ grand prêtre. Et nous prions pour que la rédemption s'exerce aussi parmi eux, pour qu'ils accueillent le Christ grand prêtre, qu'ils accueillent la médiation du Christ, comme celui qui donne la vie par excellence, la vie trinitaire, comme celui qui est le vrai chemin, comme celui qui est le seul sauveur. Donc dans cette activité, on tire des âmes, comme dirait Thérèse de Lisieux, qui commente le Cantique des Cantiques, quand elle lit « Attire-moi et nous courons », elle comprend qu'il y a un singulier et un pluriel après dans la phrase, elle a cette intuition du Saint-Esprit en disant « Si j'attire en gros à moi, si je vais vers le Christ, j'attire à moi les âmes. » Eh bien, nous allons, dans le Triduum Pascal, entrer dans le sacerdoce du Christ, dans l'activité de la rédemption, en attirant les autres. Les non-croyants et les croyants d'autres religions, les chrétiens qui ne pratiquent plus, pour leur permettre de rencontrer le Christ grand prêtre. Pour qu'ils touchent quelque chose du Christ comme sauveur, rédempteur de toute leur vie. Communicateur de la grâce. Donc, je nous invite à prendre au sérieux tous les temps de liturgie. Tous les temps de liturgie, qu'est-ce que ça va être ? C'est Jésus, grand prêtre, qui prie. Et nous prions dans sa prière. C'est lui le premier qui prie, dans la messe, dans tous les offices. C'est lui qui rend le culte au Père. Et nous rentrons dans sa prière. C'est lui qui souffre en premier, et nous participons, si nous le désirons, en offrant nos souffrances, qui n'ont aucune valeur si ce n'est la valeur que Dieu lui surajoute en la donnant dans la valeur de celle de son Fils dans la croix. Elles ont une valeur si elles sont participées. En elles-mêmes, elles n'ont pas de valeur. Nos mérites surajoutent quelque chose, mais nous ne sommes pas sauvés par nos mérites, mais par le sacrifice de la croix. Qui est total et suffisant. C'est le Christ qui va s'offrir au milieu de nous, le Christ grand prêtre qui souffre et qui s'offre. Nous allons offrir nos vies dans la passion, l'Eucharistie, la mort et la résurrection, parce que d'abord lui le fait pour tous et il nous fait participer à cette activité. Et je rappelle que l'activité propre de tout baptisé, l'activité sacerdotale, ce n'est pas d'abord de battre des mains, de chanter. Une activité physique, elle se traduit physiquement. Mais ce qui est premier, c'est l'offrande de soi dans l'offrande du Christ grand prêtre. C'est lui qui va louer dans l'Esprit Saint. C'est lui qui dit « Béni sois-tu Père, toi qui as caché cela au sage et au savant et l'a révélé au tout petit. » C'est lui qui jubile, qui est heureux de s'offrir pour nous sur la croix. Qui a dit « J'ai ardemment désiré partager cette Pâque avec vous. » Confère, j'ai ardemment désiré partager cette Pâque avec toi. Toi, personnellement, j'ai ardemment désiré partager cette Pâque pour te sauver, pour sauver ta vie, les lieux d'esclavage, les lieux de péché, toutes tes intimités blessées, pour sauver tes doutes, pour éclairer, pour te faire participer à mon sacerdoce. J'ai ardemment. Donc c'est le Christ qui s'offre et qui nous fait participer à son offrande, c'est le Christ qui loue et qui va nous faire participer à sa louange, puisque dimanche, jour de Pâques, est déjà à la veillée pascale, Pâques, nous allons participer à la joie du Christ. C'est sa joie d'abord. Et il faudra dépasser nos sentiments. Il faudra dépasser le « je me sens bien, je me sens pas bien, je pleure ou je pleure pas, ça va ou ça va pas ». Il faut rentrer dans la foi. Il faut se réjouir de la joie du Seigneur. Il faut souffrir d'une plus grande souffrance que nous-mêmes. Il faut dilater son cœur pendant ces 3 jours pour entrer dans les sentiments du Christ grand prêtre, son action, son offrande. Et toute la liturgie va être cela. Tout ce que nous allons vivre va être cela. La vénération de la croix le vendredi saint, le jeudi saint, le soir de l'agonie où nous allons être avec le Seigneur. D'une manière ou d'une autre, nous allons participer à lui. Parfois pauvrement, parce que le mystère nous dépasse, et nous allons voir, le mystère nous dépasse complètement. La rédemption n'est pas à notre mesure. Elle nous dépasse complètement. On va voir de manière particulière, dans la passion, c'est presque obscur. Nous ne comprenons pas tout. Mais ce n'est pas grave. Le Seigneur accepte, et ça le réjouit, que nous y participons. Voyez. Quelque part, il n'y a pas du tout d'égalité entre nous et Dieu. Et ça sera toujours ainsi. Parce que Dieu est Dieu et nous sommes que créatures. Et que ce que nous avons blessé du Seigneur, nous dit saint Thomas d'Aquin, par le péché et par la succession de péchés causés, entre autres par la faillite qui est en nous de pouvoir faire le bien, « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire », dit Paul, « Je fais le mal que je ne voudrais pas faire », qui est issu, la conséquence du péché originel, a produit une offense à Dieu, une offense très bien, et réelle. Mais on pourrait dire « On pourrait réparer ». Mais la victime de cette offense, l'offensé, est Dieu. Et l'offensé, l'offense humaine qui semblerait pourtant limitée, même si on mettait la totalité des péchés de tous les temps, a blessé quasiment infiniment l'offensé parce que l'offensé est Dieu. Or personne ne peut réparer une faute qui semblerait à valeur infinie. Seul celui qui est infini peut le faire. Et c'est le Rédempteur. Donc il y a quelque chose qui nous dépasse là-dedans, qui est plus grand que nous. Mais ce n'est pas grave, chacun, selon sa grâce, selon sa vocation, va être associé à ce mystère de rédemption. Nous rentrons dans le Jeudi Saint. Israël va découvrir l'unicité de Dieu. Shema Israël, Adonai Elokeinu, écoute Israël, le Seigneur est l'unique. L'unicité de Dieu, tu rendras un seul culte au Seigneur, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence. Tu le répéteras sans cesse, que tu sois debout, que tu sois allongé, à tes fils, etc. Eh bien, Israël, depuis des siècles, va faire des autels pour rendre culte à Dieu. Voilà, va faire des autels pour rendre un culte au seul Dieu unique. Et nous allons rentrer dans cette démarche, puisque de fait, nous les chrétiens, nous avons un patrimoine judéo-chrétien et la fête de Pâques est issue de la Pâque juive. Et la Pâque juive, c'est la fête de la libération du peuple hébreu de l'esclavage égyptien. Et un soir, Moïse va recevoir des paroles du Seigneur et va inviter le peuple qui doit prendre soin à manger vite un pain sans levain et à partir rapidement. Et ça va être la fête de la Pâque du passage, qui va aussi se vivre à travers la traversée de la mer Rouge. Ces deux éléments, le Christ va les reprendre, puisque nous reprendrons la traversée de la mer Rouge dans la traversée du Jourdain, le baptême, et nous allons reprendre la Pâque, manger le pain sans levain, dans le Jeudi Saint. Le Christ va vivre cette expérience, lui en bon juif, mais il va accomplir ce passage qui n'était qu'un signe jusqu'à présent, qui n'arrivait pas jusqu'au bout, qui n'arrivait pas jusqu'à la pleine libération. Si effectivement Israël a été libéré physiquement, politiquement du joug des Égyptiens, et même géographiquement, Israël n'a pas été libéré pleinement spirituellement. Les cultes donnés à Dieu lui rendaient gloire. Même le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon, le peuple de Dieu demandait pardon à travers le grand prêtre qui allait dans le Saint des Saints et proclamait le nom imprononçable du Seigneur. Mais les sacrifices n'arrivaient pas à l'expiation totale. Il fallait que la libération, la Pâque, soit définitive. Et le Christ, qui, sachant son heure venue, sachant dans Saint Jean l'heure venue, c'est-à-dire l'heure de la rédemption, l'heure de la vraie libération de l'homme de l'esclavage, l'heure du vrai passage, va faire le rite juif, mais on pourrait dire va le christianiser. Il devient le prêtre, il devient l'autel, il devient l'offrande. Tout est résumé dans le Christ grand prêtre, qui va offrir le pain, qui n'est plus une simple offrande, mais qui devient son corps. Il prend la bénédiction de la coupe à la fin du repas, qui devient son sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Nouvelle alliance, mais non pas une, et encore après une autre, éternelle, parce qu'elle a une valeur infinie. Elle est celle de Dieu qui s'offre à Dieu. Elle est celle du Christ grand prêtre, qui souffre au prêtre, qui souffre au Père. Et donc, le judaïsme est christianisé à ce moment-là. Il est parachevé, il est accompli, il est même dépassé. Les temps messianiques sont accomplis en plénitude, et c'est le Fils éternel incarné, le Christ grand prêtre, qui réalise cela. Et nous allons contempler cela dans l'Eucharistie. Nous allons contempler la Pâque réalisée. Et vous voyez, dans cette Eucharistie, l'Église y contemple son trésor. Et je nous invite à nous rappeler cela, à nous rappeler ce trésor que parfois nous négligeons par habitude. Nous négligeons par manque de vénération, par communion indigne, par non-respect, par complaisance de tristesse, etc. Or, ce sacrifice-là, dans l'Eucharistie, est extraordinaire. L'Eucharistie, en grec, eucharistein, ça veut dire rendre grâce. Le Seigneur rend grâce, donc c'est une attitude profondément de joie. Dans la prière du Christ, le Seigneur rend grâce au Père. Le Christ offre une prière de louange au Père. Mais il rend toute la grâce, c'est-à-dire aussi qu'il rend toute la création sanctifiée au Père par avance. Celle qui est créée est sauvée en Christ et elle est sanctifiée en Christ. Il lui rend grâce, il lui rend tout au Père. Le Christ rend le culte au Père parfait. Et le Christ et l'Eucharistie contient tout le mystère de la foi. Alors je voudrais que nous méditions cela parce que c'est très fort. Saint Julien Aymard, l'apôtre du Saint-Sacrement, nous dit des paroles très fortes. Pour bien adorer, il faut se rappeler que Jésus-Christ présent dans l'Eucharistie y glorifie, y continue tous les mystères et toutes les vertus de sa vie mortelle. Il faut rappeler que la Sainte Eucharistie, c'est Jésus passé, présent et futur. Que l'Eucharistie est le dernier développement de l'incarnation et de la vie mortelle du Sauveur. Que Jésus-Christ nous y donne toutes les grâces. Que toutes les vérités aboutissent à l'Eucharistie. Et qu'on a tout dit en disant l'Eucharistie, puisque c'est Jésus-Christ. Que la Sainte Eucharistie soit donc notre point de départ dans les médiations des mystères, méditation des mystères, des vertus et des vérités de la religion. Elle est notre foyer. Ces vérités ne sont que des rayons. Partant du foyer, nous rayonnerons. Dans l'Eucharistie, vous avez toute la vie du Christ qui est réalisée. Mais non pas figée, comme une sorte de mémoire de musée, un peu concentrée, superposée en mille feuilles, et tout se tient bien. Jésus vit les mystères dans l'Eucharistie. C'est un mystère, mais c'est vrai. Jésus vit ce qu'il a vécu humainement. Et c'est le Christ glorieux qui les vit. C'est mystérieux, mais c'est vrai. Et donc, il vit déjà, c'est le Christ dans l'Eucharistie incarné, obéissant, travaillant, souffrant, ressuscitant, glorifié, assis à la droite du Père, qui est dans l'Eucharistie. C'est quoi l'Eucharistie? C'est son corps. Ceci est mon corps, livré pour vous. Mais quand nous disons son corps, ce n'est pas comme nous. C'est son corps humain, son âme humaine et toute sa divinité. L'Eucharistie, c'est le don total de Dieu pour me faire rentrer dans sa vie divine. Il me fait participer, il me rend contemporain des mystères qu'il a vécu. Et je peux y participer. C'est mystérieux, mais c'est vrai. Et donc du coup, vous comprenez que dans l'Eucharistie, qui est devenu l'ultime sacrifice, l'unique sacrifice, il y a déjà en concentré la passion et la résurrection, mais qui nous est donné non de manière sanglante, mais de manière sous le voile sacramentel. Et j'ajouterai que tous les sacrements s'originent dans l'Eucharistie. Que nous, on pourrait dire, nous, c'est un mot que j'invente, sacramenté, c'est-à-dire ayant reçu des sacrements, nous nous ordonnons à l'Eucharistie. Bien sûr, nous recevons chronologiquement le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Tel est l'ordre traditionnel que nous reprenons pour les adultes, à la différence de ceux des enfants, qui est l'ordre de ceux qui recevront les sacrements de l'initiation à Pâques. Puis nous pouvons recevoir le sacrement de l'ordre, ou du mariage, et parfois le sacrement de confession, qui est un sacrement de guérison, y compris le sacrement des malades, sacrement de guérison. Très bien. Mais le sacrement par excellence, c'est l'Eucharistie. Si nous le recevons géographiquement, chronologiquement ainsi, en termes de plénitude, c'est l'Eucharistie qui contient tous les sacrements. Dans tous les sacrements, je reçois quelque chose du Christ, d'une participation au Christ. Dans l'Eucharistie, je ne reçois pas quelque chose du Christ, je reçois le Christ. Pour le dire autrement, l'origine n'est pas le fondement. On peut naître un moment et un jour découvrir son fondement qui est d'être fils de Dieu. Ça vient peut-être après chronologiquement par le baptême, mais c'est le fondement d'une vie. Ce n'est pas l'origine qui peut être déterminante. De la même manière, on peut communier plus tard, mais c'est le fondement de tout. Puisque c'est le Christ qui m'a donné les grâces baptismales et de confirmation, qui m'a pardonné les péchés. C'est ce même Christ que je rencontre à l'Eucharistie. L'Eucharistie est la source des sacrements. Pour être plus précis, c'est l'Eucharistie qui fait l'Église, et non pas l'Église qui fait l'Eucharistie. Elle le fait après, elle célèbre l'Eucharistie. Mais c'est l'Eucharistie qui est première, puisque c'est le Christ qui est premier, qui est la tête de l'Église. Et l'Eucharistie, c'est le Christ. Le Christ, en créant l'Eucharistie, en christianisant, en faisant lui-même, en accomplissant le rite juif, façonne l'Église. C'est mystérieux, mais c'est ainsi. Et tout est donné. Et tout est donné. Et le reste va se déployer. Et quand nous disons « Vous ferez cela en mémoire de moi », le fameux mémorial, ce n'est pas un album photo que nous répétons par souvenir nostalgique ou parce qu'il faut bien s'approcher du Seigneur, alors on va répéter quelque chose. C'est nous sommes rendus présents à la mort et la résurrection du Christ sous le voile sacramentel. Et le Seigneur est là agissant, le Christ éternel est là agissant, le prêtre éternel agit en nous et à travers nous. Et l'homme a faim, et l'âme a faim de cela. Alors, qu'est-ce que c'est que la communion eucharistique et la présence réelle? Je voudrais méditer ces deux points, commencer par la présence réelle que le bienheureux Paul VI a écrit, a défini fortement, mais qui est la tradition de l'Église, n'ajoute rien, dans son encyclique sur l'Eucharistie, l'Eucharistie, mystère de foi, mysterium fidei. Il parle des différentes présences. Par exemple, le Christ qui est là au milieu de deux ou trois, quand ils sont réunis en son nom. L'Église qui agit avec la présence du Seigneur. L'Église qui dirige les différents sacrements, la parole de Dieu. Et voilà ce que dit Paul VI sur l'Eucharistie, en parlant de la présence réelle. Comme par rapport aux autres, est-ce qu'elles ne seraient pas réelles, ces présences? Oui, elles sont réelles. Mais quelle est cette fameuse présence réelle qu'on parle de l'Eucharistie? Voilà ce que dit le bienheureux pape. On reste, en parlant des anciens modes de présence, on reste émerveillé devant ces divers modes de présence du Christ. On y trouve à contempler les mystères même de l'Église. Pourtant, bien autre est le mode vraiment sublime, selon lequel le Christ est présent à l'Église dans le sacrement de l'Eucharistie. C'est pourquoi celui-ci est parmi tous les sacrements le plus doux à la piété, le plus beau à l'intelligence, le plus saint pour ce qu'il renferme. Il renferme, eût fait, le Christ lui-même. Il est comme la perfection de la vie spirituelle et la fin à laquelle tendent tous les sacrements. Je vais y revenir. La fin à laquelle tendent tous les sacrements. Cette présence, on la nomme réelle. Non à titre exclusif, comme si les autres présences n'étaient pas réelles, mais par excellence, parce qu'elle est substantielle et que par elle, le Christ, Dieu et homme, se rend présent tout entier. Voyez, il y a quelque chose du Christ qui nous est donné dans les sacrements, dans l'Eucharistie, c'est tout le Christ. Vrai Dieu, vrai homme. En cela, il n'y a pas plus grand, en cela, tous les autres sacrements sont ordonnés à cette grandeur. Ça veut dire, chers frères et sœurs, qui avez reçu les sacrements, que votre baptême est ordonné à l'Eucharistie, que votre vie consacrée, qui n'est pas un sacrement, mais qui est une absolutisation de la vie baptismale, est ordonnée à l'Eucharistie, que la vie du mariage est ordonnée à l'Eucharistie, que le sacerdoce est ordonné à l'Eucharistie. Et donc, le jeudi saint, nous contemplons notre point focal. Notre point focal où toute notre vie chrétienne est ordonnée à ça. L'Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne. La vie chrétienne, dirait le curé d'Ars, toute la vie chrétienne est une préparation à cette grande action qui est la communion eucharistique. Mon travail, mes prières, mes sacrifices sont une orientation vers la communion eucharistique. Est-ce que j'ai conscience que la communion eucharistique est le sommet de ma vie chrétienne? Et que tout est orienté vers ça, que toute ma vie sacramentelle, ma vie de charité, ma vie de travail, ma vie familiale, ma vie sociale est orientée vers la communion eucharistique. Et le curé d'Ars va très loin. Il dit, pour une communion, vous rendez plus gloire à Dieu que si vous donniez 100 000 francs aux pauvres. Parce que tout est orienté, parce qu'il n'y a pas plus grand, je reçois Dieu. Et Dieu a sa joie à se donner à moi. Et en me donnant à Dieu, Dieu me prend pour me donner au Père. Et c'est ce que dit l'Épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 13. J'aurais beau donner tout mon argent aux pauvres, brûler. S'il me manque la charité, je suis rien. Mais la charité m'est donnée dans celui qui est la charité, le Christ. Et donc ça, c'est ce qu'il y a de plus grand. Et donc nous allons voir le point focal, celui qui est la source des sacrements ce soir. Et le point focal, le terme de notre vie, l'union. Et dans, parce que le terme de la vie chrétienne, c'est le plan du dessein de Dieu, c'est l'union à la Trinité. Et ici-bas, cette union à la Trinité, commence fortement par le baptême et s'accomplit dans la communion eucharistique. La communion eucharistique, le curé d'Ars dira encore, les trois personnes divines habitent cette âme. C'est un petit ciel. La sainte communion est un bain d'amour. Ô mon âme, tu es grande, puisqu'il n'y a que Dieu qui puisse te contenter. Donc nous pouvons méditer cela, voyez. Et du coup, je nous invite à mesurer, voilà, la grandeur de l'Eucharistie, ce cadeau immense qui est fait à l'Église. Voilà, nous n'aurons pas plus au ciel, simplement nous verrons Dieu. Mais Dieu s'est déjà totalement donné. Nous jouirons de la vision béatifique. Mais ici-bas, Dieu nous est donné dans l'Eucharistie. Et il attend amour. Voyez, s'il y a, je disais tout à l'heure, une différence de dignité, nous sommes rien par rapport à Dieu. Il faut être très honnête, si on comparait Dieu à l'homme, c'est plus différent que le soleil et le ver de terre. Mais c'est la vérité, il ne faut pas se dégrader, c'est la vérité. C'est que Dieu est infini, donc on ne mesure pas parce qu'il est sous les voiles sacramentelles, mais c'est la vérité. Donc c'est un immense acte d'amour que nous pouvons négliger. Mais ce qui nous rend égal avec Dieu, c'est le fait qu'il veut être aimé. L'amour abolit les degrés. L'amour nous permet de répondre librement à Dieu, oui je veux ou non je veux pas, et c'est le drame. Mais oui je veux, et en communion c'est oui je veux t'aimer. Et le Créateur, infiniment plus grand que nous, attend librement le retour de notre amour. Et dans le Triduum Pascal, le Créateur nous pose cette question comme il la posera à Saint-Pierre. M'aimes-tu ? Veux-tu me suivre ? Veux-tu me rendre amour pour amour ? Moi qu'on néglige souvent. Veux-tu m'aimer ? Veux-tu me suivre, me contempler, voir ce que je fais pour toi et pour les autres, pour l'univers ? Veux-tu me rendre amour pour amour ? C'est ce qu'il dira à Marguerite Marie. Et ça, cette dimension d'amour, nous rend quelque part égal à Dieu, non pas de dignité, mais dans l'amour, les frontières sont abolies. Et nous pouvons le remercier. Une autre facette de l'Eucharistie, de cette scène qui est donnée, qui va se déployer, vous voyez, dans le Saint-Sacrifice, la Passion et la Résurrection, mais qui est déjà condensée, parce que l'Eucharistie, c'est le Christ crucifié, ceci est mon corps, mais comme c'est le corps vivant du Christ glorieux, c'est le Christ qui est passé par la résurrection, c'est le Christ ressuscité. Donc tout est condensé. La messe, vous avez tout le mystère de l'Église. Et après, l'Église va le diffracter, le comprendre, le déployer. De la même manière, est donné quasiment, pas du même ordre, mais donné en même temps le mystère du sacerdoce. Et je nous invite à contempler cela, puisque je disais que nous vivons, et je le crois, un renouveau sacerdotal. Et je voudrais que nous méditions ce que dit une mystique, et Saint Jean-Paul II, prophète du sacerdoce pour ce temps, et une mystique, Conchita Cabrera de Armida, mexicaine, dit Conchita, qui est vénérable, dont l'ancien préfet de la Congrégation pour le clergé en parlait avec, donc c'est du sérieux, avec beaucoup de respect. Je voudrais que nous méditions un peu comment Dieu voit le mystère du prêtre, qui s'origine dans le mystère du Christ grand prêtre. Et comme le dit le curé d'Ars, c'est un sacrement pour tous, et qu'il n'y a pas d'Eucharistie sans prêtre, mais que le prêtre est toujours ordonné à plus grand que lui que l'Eucharistie. On est bien d'accord, l'Eucharistie étant l'ultime et le but de tous les sacrements. Mais ça passe par le sacerdoce, et à la scène, le Seigneur a engendré les prêtres pour les faire participants de son sacerdoce éternel. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et il est bon de méditer cela, de contempler cela. Je vous donne des passages de la Vénérable. Le Christ qui parle à cette Vénérable, hein. « Rappelle-toi que je suis Dieu, moi, que je suis homme aussi, et que j'ai voulu prendre sur moi toutes les misères de l'homme afin de les expier. Oui, j'ai voulu ressentir ce que l'homme ressent, pleurer comme lui et connaître les mêmes peines et les mêmes joies que lui. » C'est pourquoi, bien que je sois au ciel auprès de mon Père, je garde des sentiments humains comme la gratitude, l'émotion, la joie, la tristesse, etc. J'ai une sensibilité et un cœur d'homme, mais c'est une sensibilité très affinée et divinisée du fait que je suis homme et Dieu à la fois. Parmi tous les hommes, j'en ai choisi quelques-uns qui devaient m'appartenir, quelques-uns que j'ai appelés à devenir d'autres moi-même et continuer ma mission sur la terre qui est, comme je te l'ai dit, de ramener à mon Père ce qui est sorti de lui, les âmes destinées à le glorifier éternellement. Je m'arrête sur ce point, frères et sœurs. Toute vocation est ordonnée à la sainteté. Toute vocation est créée par Dieu. Toute vocation est participatrice de la rédemption. Mais il y a des vocations dont la couleur sera plus créatrice, d'autres qui sera plus le ciel et d'autres plus rédemptrices. Si on voyait le mariage, il y a une dimension plus créatrice puisqu'elle continue dans l'engendrement, la création. Soyez féconds, multipliez-vous. Il y a des vocations qui nous montrent le ciel par avance plus. On est tous tendus vers le ciel, mais elles y tendent d'une manière prophétique et anticipatoire. C'est la vie consacrée. Toute vocation a besoin d'être sauvée puisque nous sommes sous le régime de la rédemption et du péché. Mais il y a des vocations qui, par excellence, exercent la rédemption. C'est le sacerdoce ministériel. Il est ordonné à la rédemption parce qu'uni au Christ grand prêtre de manière totale et il donne les sacrements de la rédemption et le prêtre est un autre Christ, on dirait alter Christus. Il agit dans la personne du Christ, on dirait in persona Christi. Et ça, dans l'Église, nous comprenons non pas la place capitale qu'il faut mettre au piédestal, mais dans le dispositif de la rédemption, le Seigneur a mis de manière particulière la place du sacerdoce, qui n'est pas plus haut en termes de dignité, puisque la sainteté, c'est l'absolutisation de l'amour. Mais dans le dispositif sacramentel et de la rédemption, oui, ça a une place capitale. Et dans le drame de la rédemption et du trium pascal, oui, le sacerdoce a une place particulière. Et je nous invite à le recevoir comme un don et à prier pour cela, et plus encore, à vous unir au Christ grand prêtre pour demander dans le jeudi saint des prêtres, à vous unir au Christ grand prêtre pour être père spirituel et mère spirituelle d'âmes qui deviendront sacerdotales. Parce qu'il y a des âmes consacrées qui reçoivent la mission cachée d'engendrer des prêtres. C'est vrai. Comme les carmélites, mais dans le monde. Et c'est propager l'activité de la rédemption de manière éminente. Et contempler le Christ grand prêtre, c'est aussi contempler le mystère qu'habitent les prêtres, qui parfois est oublié par l'Église et les prêtres eux-mêmes. Et nous sommes dans le renouveau sacerdotal, nous sommes dans le moment où l'Église a besoin de redécontempler le Christ grand prêtre, et du coup de contempler de manière particulière comme un gain, un bien, un don du Père pour tous, ce qu'est le sacerdoce ministériel. Les prêtres, dit le Christ, qui procèdent de la pensée du Père et qui, par fraternité divine avec moi, viennent du sein de Marie, obtiennent tout de moi sur la terre et même au ciel. C'est eux que mon Père cherche en moi et moi qui cherche en eux. Si le Père aime tant l'Église, c'est à cause de son Verbe. S'il envoyait son Esprit sur elle pour en faire son âme et sa vie, c'est encore à cause de son Verbe. Et si parmi les mortels, il s'est choisi des prêtres, c'est à cause de son Verbe, parce qu'il ne voit en eux qu'un seul prêtre, moi-même, qui rassemble tous les prêtres en moi. C'est pour ça que nous avons la concélébration le jeudi saint. Les prêtres sont unis au Christ grand prêtre. Il n'y a que le Christ prêtre qui célèbre à travers les prêtres. Je vous invite à méditer vraiment ça. Pour ce faire, il faut que la ressemblance entre les prêtres et moi soit parfaite et que les prêtres ressemblent à ma mère, dont ils sont les fils plus encore que les autres hommes. Dans l'Eucharistie, comme dans les prêtres, il y a plusieurs espèces, mais il n'y a qu'une seule substance, le Verbe fait homme en eux. Le prêtre doit être une hostie vivante qui me contienne, ou mieux, une hostie qui est en moi tout entier. Je vous invite aussi à méditer cela. Je pense que c'est une petite image, mais elle est éloquente. Quand le prêtre va soulever l'Eucharistie, Vous imaginez le pouvoir du prêtre, qui est le pouvoir de Dieu à travers le prêtre. Le prêtre n'a rien, mais c'est immense. S'il ne dit pas les paroles, il n'y a pas Dieu. Il dit les paroles, dans la foi de l'Église, il y a Dieu. Vous imaginez, c'est plus grand que le Big Bang. Hein. Fait réfléchir. Qui tient l'autre ? Physiquement, le prêtre. C'est tout. Spirituellement, c'est l'hostie qui tient le prêtre. C'est le Christ grand prêtre qui tient son prêtre. Je vous invite à méditer cela. Quand vous prenez l'Eucharistie, qui tient l'autre ? Celui qui en apparence est faible est plus fort que l'univers entier. Vous invite vraiment à méditer cela. Quand le prêtre va dire « Ceci est mon corps livré pour vous », il ne dit pas « C'est le Christ livré pour vous ». Il dit « Ceci est mon corps ». Parce que le Christ veut que le prêtre se sacrifie avec le Christ grand prêtre. Et que si le prêtre ne communiait pas au calice et au pain consacré à la scène même, le sacrifice n'est pas accompli parce qu'il n'est pas mort avec le Christ. Il n'a pas bu la coupe. Vous voyez, il y a un mystère qui est donné là. Il y a une association de salut. C'est mystérieux, mais ça produit la grâce. Et donc, si nous parlons de ce mystère, je vais encore en dire un petit peu, nous avons un peu de temps, mais je voudrais aussi dire ce grand prophète, qui est aussi le prophète du laïc, hein, qui est le prophète de la famille, de la vie, de la nouvelle évangélisation, Saint Jean-Paul II, mais qui, dans ce très beau livre, Ma vocation doué mystère, nous révèle quelque chose de profond sur sa compréhension du Christ grand prêtre. Je voudrais aussi que nous méditions cela. Il l'écrit, je le lis texto. Il cite une litanie très ancienne du Christ grand prêtre, mais il en comprend la profondeur. Le sens authentique, nous dit-il, du sacerdoce du Christ m'est toujours apparu avec une extraordinaire éloquence dans les litanies qu'on avait l'habitude de réciter au séminaire de Cracovie. En particulier, à la veille de l'ordination sacerdotale, je fais allusion aux litanies du Christ prêtre et victime. Quelle profondeur, quelle profonde réflexion elle suscitait en moi dans le sacrifice de la croix représenté et actualisé en toute Eucharistie. Le Christ s'offre lui-même pour le salut du monde. Les invocations litaniques passent en revue les différents aspects du mystère. Elles me reviennent en mémoire avec le symbolisme évocateur des images bibliques dont elles sont tissées. Je les ai encore sur les lèvres en latin, langue dans laquelle je les ai récitées pendant le séminaire, puis de nombreuses fois les années suivantes. Jésus, prêtre et victime. Jésus, prêtre à jamais, selon l'ordre du sacerdoce de Melchisédek. Jésus, grand prêtre, choisi parmi les hommes. Jésus, grand prêtre, établi pour les hommes. Jésus, grand prêtre, des biens à venir. Jésus, grand prêtre, fidèle et miséricordieux. Jésus, grand prêtre, qui nous a aimés et nous a lavés dans son sang des souillures de nos péchés. Jésus, grand prêtre, qui t'es livré toi-même à Dieu en offrande et hostie sans tâche. Jésus, hostie sainte et immaculée. Jésus, hostie en qui nous pouvons en toute confiance accéder au Père. Jésus, hostie vivante pour les siècles des siècles. Quelle richesse théologique dans ces expressions. Ce sont des litanies profondément enracinées dans la Sainte Écriture, surtout dans la lettre aux Hébreux. Qu'il suffise d'en relire ce passage, le Christ, grand prêtre des biens à venir, entra une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec des sangs de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang, nous ayant acquis une rédemption éternelle. Si en effet du sang de bouc et de taureau, dont on asperge ceux qui sont souillés, les sanctifie en leur procurant la pureté de la chair, combien le sang du Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant ? Le Christ est prêtre parce qu'il est le rédempteur du monde. Le Christ, le sacerdoce de tous les prêtres, s'inscrit dans le mystère de la rédemption. Ce véritable sens de la rédemption et du rédempteur s'est enraciné au cœur même de ma conscience. Il m'a accompagné pendant toutes ces années, il a imprégné toutes mes expériences pastorales, il m'a dévoilé un contenu toujours nouveau. Et nous pourrions voir tout le reste. Un frère me disait, c'est pas pour rien que Jean-Paul II a écrit les encycliques Redemptor Omnis, Redemptoris Mater, Redemptio, Redemptis, Redemptoris Missio, etc. parce qu'en fait, il est rentré dans l'action du Christ grand prêtre qui est l'activité du rachat du monde. Et donc, toute son activité de pape, de prêtre, ça a été de rentrer dans cela. Donc, vous voyez, nous, à chacun selon notre vocation, nous avons à rentrer là-dedans et à prier pour que l'activité de la rédemption se fasse le jeudi saint. C'est un drame, nous y rentrons. Et après, nous allons suivre existentiellement ce qu'il va dévoiler, non plus sacramentalement, mais physiquement, dans la passion qui commencera à l'agonie jusqu'à la résurrection. Mais déjà, tout est condensé dans l'Eucharistie. Alors, je voudrais donner aussi, et il faut le dire, nommer certains péchés des prêtres. Alors, il y en a des connus, et il y a tout ce qui tourne autour de la pureté, de la pédophilie, de la mondanité, du cléricalisme. Et je nous invite à invoquer le Seigneur pour demander, durant ce triduum, des vocations et la sanctification et la purification des prêtres. Parce qu'il y a un enjeu. Et que tout laïc doit se considérer associé à cette œuvre-là. Il y aura des saintetés de baptisés qui auront été des saintetés qui auront aidé par leur prière et le sacrifice à donner de saints prêtres. Et Thérèse de Lisieux, elle qui voulait devenir prêtre, n'a pas été jalouse quand elle a compris qu'au Carmel, elle arriverait à sanctifier les prêtres. Et du coup, après, les prêtres feraient le boulot, mais qu'elle avait une place de choix. Vous, les parents aussi, vous avez une place de choix, parce que vous pouvez associer dans la rédemption votre vie conjugale, votre vie familiale, et demander au Christ grand prêtre de la sanctifier, de la sauver, et de confier vos enfants. Et peut-être même que dans vos enfants, il y aura des vocations de prêtre. Mais je vais vous dire certains péchés, parce que c'est des péchés plus minimes, mais c'est très intéressant de l'entendre. Et vous pouvez contempler aussi en même temps comment le Christ a surpassé ses péchés, a vaincu ses péchés dans son être même, parce qu'il portait les prêtres de tous les temps. Il portait tout baptisé de tous les temps, il connaissait nos péchés par avance. Mais il portait aussi de manière particulière ceux à qui il voudrait faire participer à l'œuvre de rédemption, de manière particulière le sacerdoce ministériel. Voilà ce que dit Conchita, qui est très fort. Une autre chose que le Christ dit à Conchita, une autre chose qui m'offense chez les prêtres, c'est cette manie qu'ils ont de s'envier les uns les autres. Ils envient ceux qui prêchent, ceux qui confessent, ceux qui ont des amis huppés, ceux qui ont les faveurs de leur évêque, de leur supérieur, ceux qui occupent de hautes dignités, ceux qui réussissent dans les études, ceux qui ont du talent, ceux qui sont entourés, etc. On peut en prendre du grade quand on est baptisé, mais pour les prêtres, on peut en prendre plus du grade. Ce vice est très répandu, car les prêtres sont des hommes, et comme tels, leur cœur est rempli de passions humaines. Mais à cause de la grandeur de leur vocation sacerdotale, les prêtres devraient vivre sur cette terre comme des habitants du ciel, en tenant leur cœur éloigné des passions vulgaires et en gardant leur paix au lieu de se laisser gagner par mille passions dévastatrices qui les mènent à leur perte. L'envie qui sévit parmi les prêtres a des conséquences funestes et indicibles, des conséquences parfois irréparables, qui m'offensent très gravement et qui font également souffrir mon Église et les évêques et provoquent le scandale chez les fidèles. Qu'importe que certains prêtres aient plus de talent que l'autre, c'est pareil pour les laïcs, entendons ça. Plus d'amis qui brillent plus que d'autres, là n'est pas la véritable grandeur pour moi. Elle n'est ni dans ce qui brille, ni dans ce qui se passe ou se voit, mais elle est dans le secret d'un cœur pur, humble et amoureux de moi. Je m'arrête là-dessus, elle n'est pas dans ce qui brille. L'Eucharistie, nous dit le rosaire, nous dit Saint Jean-Paul II, est le mystère lumineux par excellence. Ça brille et c'est caché. Mais nous allons comprendre ce mystère qui brille par la ténèbre. On va rentrer par la croix, par la passion. Et le Seigneur a guéri ceux qui voulaient aller vers lui dans la pleine lumière en les faisant passer par l'obscurité de la foi. Et nous devons tous passer par là. Et nous devons nous encourager les uns les autres dans ce triduum en disant « Cherche pas ce qui brille, cherche, va plus loin, cherche ce qui est obscur. Et s'il brille dans l'obscurité, c'est pour t'aider à aller plus loin. » Et vous pouvez dire, mon père, prenez la croix. Vous ne comptez peut-être pas de briller. Prenez la croix. Faites votre œuvre avec le Christ rédempteur de la rédemption. Ne cherchez pas ce qui brille. Je ne tire aucune gloire des bruyantes victoires, ni de l'assentiment des foules, mais bien plutôt de la sainteté et de la perfection intérieure des âmes. Je suis libre de distribuer les talents à ma guise. Que les prêtres sachent que celui qui m'apporte le plus de consolation est celui qui a un cœur pur, une grande humilité, et que pour moi, le véritable apôtre est celui qui ne cherche pas sa propre gloire, ni les applaudissements, mais celui qui cherche à me glorifier par ses sacrifices cachés, ses abnégations silencieuses, sa charité envers les autres prêtres, et en les considérant toujours supérieurs, en les respectant, en les louant, en les aimant de tout son cœur. Voilà, j'ai pris un élément qui est peu dit, mais qui est un péché courant. Peut-être moins honteux, mais un péché courant. Et voilà, nous avons à rentrer là-dedans pour une œuvre de purification et de rédemption. Nous avons à nous aider les uns les autres. J'ai parlé de l'institution du sacerdoce. Et à partir de là, vous voyez, une fois que nous aurons fêté cette fête, nous rendrons grâce au Seigneur, où c'est notre point focal. Le Seigneur, juste après, va nous faire passer de la lumière à la ténèbre, tout de suite. Parce qu'il nous fait rentrer dans le mystère. Tu l'as vu briller, tu l'as contemplé, il est beau, rentre. Et on va être complètement dépassé, parce qu'on va rentrer dans quelque chose qu'on ne comprend pas, qui est l'agonie du Seigneur. Et là, le Seigneur lumineux, glorieux, va accepter d'ouvrir les vannes. Et la ténèbre, le péché, rentre dans son corps, son psyché, son âme. Ne le détruit pas. Ne le détruit pas, il est indestructible, il est Dieu. Vous voyez, si vous prenez l'image d'un lavabo, vous mettez du pétrole sur le lavabo ou de n'importe quoi, de la crasse, ça sent crasse, ça pénètre la matière. Au bout d'un moment, c'est pris dans les mailles, vous ne pouvez plus l'enlever, d'accord ? Le Christ est complètement recouvert dans les tuyauteries, partout, dans tout l'être. Mais l'émail est intact, parce qu'il est Dieu, parce que la lumière brille dans les ténèbres. Mais ce combat qui se vit nous dépasse. Certaines âmes y sont associées, d'autres resteront à l'extérieur, mais contempleront le Seigneur le vivre. Ça commence comme ça. Généralement, c'est par le physique que nous rentrons dans la passion. C'est plus facile, c'est une répétition, par la contemplation du Christ à la croix, chemin de croix. Mais dès la passion, nous rentrons dans l'obscurité. Et en fait, c'est quoi ? C'est le mystère qui est célébré avant, lumineux. C'est le même. Mais là, il s'est montré, là, il nous dit, tu rentres avec moi. Et on pourra dire, mais ça me dépasse. C'est pas grave si ça te dépasse. Sois avec moi, j'ai besoin que tu sois là. J'ai besoin de toi. Alors nous ne serons que des petites lumières à côté, en priant le Seigneur, qui sauve le monde. Seul, parce qu'il est le Rédempteur, qui prend tout sur lui, qui est tenté de tout, mais qui est le Rédempteur inaltérable et qui va vaincre. Et à partir de là, dans ce jeudi saint, le soir, au Jardin des Oliviers, notre prière n'est pas pour nous, mais elle est pauvrement unie au Christ grand prêtre qui s'offre pour tous, pour tous les temps. Et une des tentations que le diable, nous disent les mystiques, va jouer sur le Christ, c'est de vouloir lui faire sentir que son sacrifice ne sert à rien. Voyez ? Et nous sommes là, même si nous nous ennuyons, nous sommes là dans un registre supérieur au sentiment qui est la foi. Nous rentrons dans quelque chose en disant « Seigneur, c'est utile, je le crois, tu le fais et je m'y associe. Je ne perds pas mon temps, je fais sans doute là le travail le plus éminent que je ferai de toute ma vie. » Même si ça nous dépasse. Et l'Église va s'unir à son Seigneur. Et comme disait saint Jean-Paul II, l'Église, de siècle en siècle, est à la recherche de cette heure perdue que le Christ a dit en se plaignant à ses apôtres. « Vous n'avez pas été capable de veiller avec moi. » Et de siècle en siècle, l'Église répare, est unie à la prière du Christ Rédempteur pour collaborer dans sa petitesse au service de la rédemption. Bonne entrée dans le Triduum Pascal. Je vous invite à vous préparer à renouveler votre baptême, à comprendre que vous êtes associé à la rédemption du Christ grand prêtre, à son œuvre, à changer de vie, à jeter tout ce qui est péché, à vous faire un règlement, à vous décider, pour ceux qui n'êtes pas encore confessés, à aller vous laver dans le sang du Christ et à plonger pleinement, à laisser les activités ou simplement les mettre en mode périphérique et à vivre intensément ces moments qui qui peuvent changer nos vies et en considérant que ce que nous allons faire est le plus gros travail de notre vie et qu'un travail uni au Christ attractif qui sert à d'autres. Et peut-être au ciel, nous verrons les âmes que nous aurons aidées à être éclairées, à être converties, à être sauvées. Amen.